comprenez les quatre nobles vérités. Dans son premier discours dans le parc des gazelles à Sarnath, écoutez le passage « Le Bouddha a fait tourner la roue du Dharma en dispensant son enseignement spirituel plus haut dans ce chapitre. » Shakyamuni présenta les quatre nobles vérités qui constituent le fondement de tout le reste de son enseignement. Plus vous comprendrez ces quatre vérités, plus vous comprendrez ce qu'est le bouddhisme. Ce sont les vérités de la souffrance, de la cause de la souffrance, de la cessation de la souffrance, du sentier qui mène à la cessation de la souffrance. N'oubliez pas. La première des quatre nobles vérités reconnaît l'existence largement répandue de dukkha. Ce mot sanskrit, dukkha en pali, est habituellement traduit par souffrance, mais il possède une gamme plus étendue de significations. En particulier, dukkha transmet un sens d'insatisfaction au sujet de choses qui ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Certaines expériences de la vie sont tellement douloureuses et malheureuses que personne n'a de difficulté à les identifier à de la souffrance. Un mal de tête, par exemple, ce n'est pas drôle. Lorsque vous ressentez ce lancinement familier dans votre crâne, parfois, tout ce à quoi vous pouvez penser, c'est que vous voulez que la douleur disparaisse. Vous exigez un soulagement immédiat, voire à effet rétroactif. Et un mal de tête est une chose relativement mineure lorsqu'on le compare à de nombreuses maladies corporelles. Même si la gêne physique ne se produit pas, d'innombrables difficultés mentales et émotionnelles surgissent. Dans son discours à Sarnath, le sermon de Bénarès, le Bouddha a énoncé de façon spécifique les choses qui suivent comme étant déplaisantes. Rencontrer ce que vous n'aimez pas, être séparé de ce que vous aimez, ne pas obtenir ce que vous voulez. Faites le compte. Si vous évaluez combien de temps dans votre vie et dans celle de gens que vous connaissez est justement occupé par ces trois types d'expériences déplaisantes, vous allez commencer à comprendre que du dukkha, il y en a quantité plus que suffisante. Mais si le Bouddha Shakyamuni avait autant de compassion que ça, pourquoi a-t-il attiré l'attention des gens sur quelque chose d'aussi désagréable que la souffrance ? Et pourquoi en a-t-il fait la première des quatre nobles vérités ? En partie parce que les gens sont aussi doués qu'ils le sont pour se bercer d'illusions, comme celui qui refuse d'admettre qu'il a une maladie mortelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la soigner. Beaucoup de gens feront quasiment n'importe quoi pour éviter de regarder de trop près leur propre personne et la manière dont ils vivent réellement leur vie. Ils titubent d'une situation insatisfaisante à la suivante. Et chaque fois qu'ils flairent la nature imparfaite de leur existence, ils se contentent d'ignorer leurs soupçons et se dépêchent de prendre un autre verre ou une autre cigarette ou de passer à l'émission suivante à la télé ou à une distraction similaire. L'intention du Bouddha était d'aider les gens à se rendre compte de leur propre reniement de soi. En parlant de la souffrance et de l'insatisfaction de façon aussi incontournable, il ne voulait décourager personne, au contraire. Il savait que lorsqu'on fait carrément face à la vérité de sa souffrance, une chose extraordinaire peut se produire. On peut l'éviter. Comme l'ont signalé plusieurs instructeurs contemporains, bien que la douleur soit inévitable dans la vie, la souffrance, elle, est entièrement en option. Bien que vous ne soyez peut-être pas en mesure de choisir ce qui vous arrive, vous pouvez sans aucun doute prendre le contrôle de votre réponse. Et c'est ça qui fait toute la différence. N'oubliez pas. En outre, gardez à l'esprit que la souffrance même peut avoir des aspects positifs. Parfois, lorsque les choses vont relativement bien, il est facile d'ignorer les difficultés des autres. Mais lorsque l'on rencontre soi-même des difficultés semblables, il est probable que l'on peut plus facilement ouvrir son cœur et se mettre à la place des autres. Tandis que votre cœur s'ouvre, votre bonté s'accroît elle aussi. Si vous pouvez vous servir de vos propres difficultés pour générer de la compassion sincère et profondément ressentie pour les autres, c'est-à-dire l'une des qualités spirituelles les plus belles et les plus libératrices, alors votre souffrance en aura vraiment valu la peine. N'oubliez pas. Après avoir souligné combien la souffrance est omniprésente, le Bouddha s'attaque ensuite à la question qui se pose. D'où provient tout ce malheur? Quelle en est son origine, sa cause? Pour répondre à cette question, il énonce la seconde noble vérité. Toute la souffrance, sans exception, provient de l'attachement causé par le désir, par la soif. En d'autres termes, tant que vous permettez à des désirs insatiables de telle ou telle chose de vous mener par le bout du nez, vous serez traîné d'une situation insatisfaisante à la suivante dans toute votre vie, et vous ne ferez jamais l'expérience de la paix et de la satisfaction. Ce que le Bouddha dit en substance, c'est que si vous voulez découvrir la véritable source de vos problèmes, il vous faut chercher à l'intérieur de vous-même. La souffrance n'est pas une punition que vous infligent d'autres personnes, ni les situations de la vie, ni aucune force surnaturelle en dehors de vous-même. La souffrance ne vous est pas non plus infligée sans raison. Ce n'est pas un simple événement aléatoire dans un univers qui serait dénué de sens et gouverné par la loi du hasard, même si c'est à la mode de penser ainsi. Au contraire, la souffrance ou l'insatisfaction que vous ressentez est directement liée aux attitudes qui émergent en vous dans votre propre cœur et votre propre esprit. Écoutez le chapitre 12 où nous parlons de la loi karmique ou la loi de la causalité dans plus de détails. On peut se faire une idée de la relation qui existe entre l'attachement et l'insatisfaction en prenant des exemples banals de la vie quotidienne. Par exemple, aux États-Unis, de nombreuses personnes se rendent au centre commercial le plus proche lorsqu'elles se sentent nerveuses ou insatisfaites. Elles recherchent quelque chose, n'importe quoi, qui puisse combler la sensation de vide qu'elles éprouvent à l'intérieur d'elles-mêmes. Peut-être vont-elles repérer une chemise et penser qu'elles auront l'air super dedans. Elles se mettent alors à imaginer que ce vêtement va renforcer leur estime de soi, les rendre attirantes pour les autres, et peut-être même leur permettre de harponner l'homme ou la femme de leurs rêves et changer ainsi leur vie. Cet exemple est sans doute exagéré, mais il décrit exactement comment fonctionne cet attachement causé par le désir. Il exagère tout. On s'attache à ses biens, à son apparence et à l'opinion qu'ont les autres de soi en espérant satisfaire un besoin intérieur profond. Mais plus on s'attache, plus l'on est insatisfait. Pourquoi? Parce que tout est constamment en changement et que rien ne pourrait être à la hauteur des attentes irréalistes que l'on projette dessus. Vous sortirez peut-être de ce centre commercial en tenant la nouvelle robe ou le nouveau pull que vous venez d'y acheter, mais ce que vous faites en réalité, c'est vous accrocher à une illusion. Et tôt ou tard, en général tôt, l'illusion vous laissera tomber. N'oubliez pas. Le problème n'est donc pas le vêtement en soi, ni même le fait que vous le trouviez joli et que vous y preniez plaisir. Le problème réside dans votre attachement à lui et dans les attentes irréalistes que cet attachement peut cultiver. Toute la douleur de votre expérience ultérieure, lorsque la robe ou la chemise révélera sa nature transitoire en perdant de sa couleur, en s'effilochant ou en passant de mode, sera l'effet direct de votre attachement. Lorsque le Bouddha expliquait que le désir ou attachement est la cause de la souffrance, il avait à l'esprit bien plus de choses que les seuls effets de la fringale de vêtements. Au bout du compte, il parlait de la même manière dont les êtres non éveillés, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas atteint l'éveil à la réalité ultime, écoutez le chapitre 10 pour en savoir davantage sur la signification de l'éveil, s'accrochent à une image irréaliste de qui ils sont et de ce qu'ils sont. Derrière la pensée « j'espère que je suis beau dans cette chemise », il y a un niveau bien plus profond d'attachement au sentiment trop concret du soi, du « je ». En se cramponnant à cette perception erronée du soi, non seulement vous programmez votre insatisfaction et votre souffrance durant toute votre vie, mais en plus, vous vous condamnez à errer d'une vie d'insatisfaction à la suivante. Passez au chapitre 13 pour en savoir plus sur ce cycle d'insatisfaction et sur la solution du Bouddha pour s'en libérer.
L'avenir est entre vos mains. Certains enseignements bouddhistes présentent une vision apocalyptique de l'avenir, dans lequel les conditions de vie sur cette planète vont de mal en pis. Pourtant, Ne vous laissez pas effrayer par de telles visions. D'une part, de tels récits font simplement partie de la mythologie bouddhique, il n'est pas nécessaire de les considérer comme des vérités incontestables. Certaines écoles bouddhiques ignorent même complètement ce type d'histoire mythique. D'autre part, selon le dogme du karma, dont nous parlons au chapitre 12, vous avez le pouvoir de décider si vous souhaitez ou non partager ces circonstances misérables. Si votre propre esprit est en paix et rempli d'amour, vous créerez les circonstances d'un avenir confortable, quoi qu'il arrive. Selon le point de vue bouddhiste, le monde est sans limite. Il contient bien plus de possibilités que celles qui sont captées par la pensée et la perception ordinaire. Par exemple, d'un simple point de vue historique, la vie de Bouddha Shakyamuni est terminée une bonne fois pour toutes. Il est né, il a enseigné le Dharma aux autres et il a disparu. Mais selon son enseignement, l'univers contient d'innombrables systèmes de mondes. Et dans nombre de ces systèmes, Shakyamuni et d'autres êtres réalisés sont actuellement en train d'effectuer les diverses actions bénéfiques d'un être éveillé. En conséquence, même si les conditions de vie de cette planète se détériorent et que son enseignement disparaît, ceux qui auront créé un karma suffisamment positif renaîtront dans un monde où la bonne loi, le dharma, fleurit encore et où les circonstances seront propices à la pratique spirituelle. Bien sûr, cette possibilité ne vous donne pas carte blanche pour rester sans agir, ce que beaucoup de gens semblent choisir de faire de nos jours, alors que les choses empirent et que le monde court à sa perte. Les disciples dévoués du Bouddha compatissant n'abandonnent pas le monde. Au contraire, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour inverser la marée de la souffrance et protéger du désastre l'environnement de tous les êtres qui vivent sur la terre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que seul un changement profond d'attitude et de comportement pourra fournir une réelle protection contre la souffrance, qu'il s'agisse de la souffrance d'un individu ou de celle de la planète tout entière. Par la pratique de la vision profonde et de la compassion aimante, vous pouvez transformer le monde en une terre pure. Mais si vous permettez à l'égoïsme et au sentiment néfaste de prendre une importance considérable dans votre vie, la souffrance sera le résultat inévitable, à la fois pour vous-même, en tant que personne, et aussi pour le monde dans son ensemble.
La troisième des nobles vérités, c'est l'affirmation audacieuse du Bouddha qu'il existe véritablement une fin à la souffrance. Quel soulagement après les deux premières vérités plutôt dégrisantes de la souffrance et de sa cause. Nous ne parlons pas ici de prendre de brèves vacances du cycle d'insatisfaction, mais de sa cessation complète. Le Bouddha avait confiance en sa déclaration, parce qu'il avait lui-même vécu cette libération et clairement vu que rien n'empêche toute autre personne de faire la même chose. N'oubliez pas. La solution réside dans le déracinement de l'attachement causé par le désir dans votre cœur et dans votre esprit. Pour simplifier, on peut dire « lâchez prise ». Abandonnez tout comportement nuisible. Abandonnez les attitudes qui vous font vous accrocher aux gens, aux biens et même à votre propre corps. Finalement, lâchez la prise que vous avez sur vous-même. Le Bouddha a enseigné que lorsque l'on élimine comme ça de son esprit tout attachement produit de façon ignorante, c'est comme si l'on érigeait le barrage d'un fleuve à sa source. Le flux de souffrance indésirable se tarit alors de lui-même. Bien sûr, nous savons qu'il n'est pas simple d'abandonner l'attachement. Vous vous accrochez à une conception du soi irréaliste depuis tant de temps qu'il vous est impossible de vous en souvenir. Donc, rompre cette habitude ne va pas être quelque chose de facile. Mais c'est faisable, et le Bouddha en a apporté la preuve. Cela fait 2,5 millénaires que Shakyamuni a marché sur cette terre, mais son exemple lumineux continue d'inspirer les gens. Et lorsque vous rencontrez ceux qui se sont formés en suivant son enseignement, c'est-à-dire en suivant les méthodes que lui-même a suivies, vous aurez peut-être la chance de voir que ce « lâcher prise » apporte des résultats assez inspirés. Mieux encore, vous pouvez vous-même suivre les mêmes méthodes et ainsi vivre vous-même l'expérience de ces mêmes résultats. La quatrième et dernière noble vérité comprend le « manuel d'instruction » qui mène à la cessation de la souffrance et aux expériences de libération spirituelle et à l'éveil qui l'accompagne. Écoutez le chapitre 10 pour en savoir plus sur les différents niveaux d'accomplissement spirituel. Ces instructions sont présentées sous la forme du noble sentier octuple, lui-même symbolisé par les 8 rayons de la roue du Dharma.
Ne prenez pas les mythes ni la doctrine trop au pied de la lettre. Dans tout ce livre, mais surtout dans ce chapitre, nous mélangeons l'enseignement pratique du Bouddha qui est destiné à vous aider à faire face à votre propre souffrance et à votre propre confusion avec la mythologie bouddhiste qui s'est accumulée au cours de plusieurs milliers d'années. Bien que des histoires et des mythes élaborés puissent vous inspirer, il n'est pas non plus nécessaire d'y croire pour être bouddhiste. En fait, le Bouddha lui-même n'enseigna aucune doctrine, aucun dogme en exigeant de ses disciples qu'ils les croient. Au contraire, il les encourageait en permanence à mettre tout concept en doute pour s'assurer qu'il correspondait bien à leur propre expérience et à leur propre façon de concevoir les choses. Ensuite, il leur recommandait de mettre ces idées en pratique pour vérifier si elles fonctionnaient vraiment. Dans une histoire restée célèbre, quelqu'un posa au Bouddha une série de questions théoriques sur la réincarnation et la taille de l'univers. Au lieu de répondre de sa manière habituelle, il resta silencieux. Alors que le demandeur insistait, il raconta l'histoire suivante. Supposez que quelqu'un vous blesse d'une flèche que vous savez empoisonnée par un poison violent. Allez-vous prendre du temps à trouver le nom de l'archer, sa caste, de quel village il vient et avec quels matériaux son arc et ses flèches ont été fabriqués? Bien sûr que non. Au contraire, vous allez agir aussi rapidement que possible pour retirer la flèche et trouver l'antidote au poison. De même, affirma le Bouddha, chercher les réponses à des questions hypothétiques, cela peut être une perte de temps précieux. Si vous avez été blessé par les flèches empoisonnées de l'avidité, de la haine et de l'ignorance, et si vous n'avez en outre que très peu de temps pour mettre fin à votre souffrance.
N'oubliez pas. La vie spirituelle, qu'elle soit bouddhiste ou autre, est souvent appelée « sentier » ou « chemin ». Parce qu'elle mène là où, au fond de votre cœur, vous voulez vous rendre. Mais ne faites pas l'erreur de croire que ce sentier se trouve à l'extérieur de vous-même. Comme la cause de la souffrance, le sentier qui mène aux réalisations spirituelles les plus élevées réside à l'intérieur de vous-même, dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. En outre, bien que vous soyez en train de suivre un sentier, ce n'est pas comme si vous vous rendiez quelque part. Ce n'est pas comme si la souffrance était quelque part là-bas et que la libération se trouvait dans un autre pays. Certaines traditions bouddhiques soulignent cet aspect en parlant de sentier sans sentier ou de sentier sans but. Ces expressions servent à souligner le caractère immédiat de l'expérience spirituelle et à vous libérer de l'idée, qui peut elle-même constituer un obstacle, que l'éveil est quelque part ailleurs qu'ici et maintenant. Gardez donc ces avertissements à l'esprit en prenant connaissance des 8 éléments du sentier qui mène à la cessation de la souffrance. Le noble sentier octuple.
La signification du concept des 4 nobles vérités. De nombreux auteurs et instructeurs ont leur propre traduction préférée des mots-clés qui réapparaissent sans cesse dans les textes bouddhistes traditionnels. Par exemple, lorsque vous parlez de quelque chose qui est connu sous le nom de « dana » en pali comme en sanskrit, les deux principales langues indiennes pour le bouddhisme, l'un dira qu'il s'agit de générosité, l'autre de charité, un troisième de don, et un dernier pourrait bien enfin opter pour « main ouverte ». Il existe de nombreux autres exemples qui illustrent la question de la traduction. Par exemple, bien que les termes patience, tolérance et indulgence signifient des choses assez différentes en français, on s'en sert pour traduire le terme sanskrit kshanti, qui est l'un des principaux antidotes à la colère. Même le mot sanskrit dukkha, qui est absolument central dans l'enseignement du Bouddha et qu'on traduit généralement par souffrance, a aussi été rendu par les mots tristesse, insatisfaction, stress et même oppression. Toutefois, on trouve très peu de variations d'un auteur à l'autre lorsque l'on parle des quatre nobles vérités. Quasiment tout le monde s'y réfère en parlant simplement des quatre nobles vérités. Et pourtant, quelque chose est équivoque dans ce groupe de mots. Ces mots semblent impliquer que la souffrance, sa cause, etc., sont elles-mêmes nobles. Mais ce n'est pas du tout ce que le Bouddha veut dire. L'adjectif noble, Arya, ne s'applique pas aux vérités de la souffrance, à sa cause, etc., mais qualifie la personne suffisamment avancée sur le plan spirituel pour voir directement ses vérités. Dans la pensée bouddhique, un Arya, une personne noble, est quelqu'un qui a nettoyé toutes les couches de conceptions erronées qui recouvraient son esprit et qui peut donc, pour la première fois, voir directement la vérité ultime. Voir le chapitre 14. Avec ce discernement, certaines vérités qui avaient été jusqu'à présent cachées apparaissent enfin directement et sans erreur possible. Les quatre nobles vérités sont donc les quatre choses que ceux qui sont nobles voient comme étant vraies. Mais on a gardé, pour des raisons évidentes, le concept compact des quatre nobles vérités.
La compréhension juste. Le sentier commence lorsque vous commencez de vous-même à voir que la souffrance et l'insatisfaction infestent l'existence ordinaire, non éveillée, dans son intégralité. Si vous voulez améliorer votre situation, vous devez cultiver la sagesse perspicace qui maintient clairement cette vue correcte. La pensée juste. La pensée juste, ou intention juste, implique l'abandon d'attitudes égoïstes qui entraînent davantage de souffrance pour les remplacer par leur contraire. Au lieu de penser qui vous cause du tort et en cause aux autres, cultivez l'intention d'apporter à tous le bonheur. La parole juste. Comme ce que vous dites peut avoir un puissant effet sur les autres et affecter également votre propre évolution spirituelle, il est important de cultiver la parole juste. Cette culture implique de prononcer des mots qui sont vrais, agréables à écouter et surtout bénéfiques aux autres. L'action juste. Exactement comme la parole juste signifie éviter de causer du tort par ce que vous dites, l'action juste signifie éviter de causer du tort par ce que vous faites. Donc, au lieu de blesser physiquement les autres par vos actions, vous essayez de les aider et de les protéger. Les moyens d'existence juste. Vous pouvez gagner votre vie de différentes façons, mais si vous avez l'intention de gagner davantage que simplement de la richesse matérielle, évitez des moyens d'existence qui impliquent de nuire aux autres ou de les tromper. Il va de soi qu'une profession dans laquelle vous pouvez être au service des autres constitue un excellent moyen d'existence. Mais même si vous n'avez pas ce type de travail, vous pouvez quand même veiller à ce que vos échanges avec les autres soient honnêtes et empreints de bonté. L'effort juste. Ce type d'effort concerne vos pratiques spirituelles. Au lieu d'être paresseux, exercez un effort continu, mais pourtant détendu, sans peine, diraient certains, afin d'être conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Si ces pensées sont négatives, ne les laissez pas vous déborder. Si elles sont positives, réjouissez-vous. L'attention juste. Accorder de l'attention soutenue à ce qui se passe en ce moment même, c'est essentiel à tous les niveaux de pratique spirituelle. Au lieu de vous cramponner à vos pensées du passé ou de spéculer sur l'avenir, gardez votre attention focalisée sur le moment présent. Ce conseil s'applique non seulement à votre pratique de la méditation formelle, mais aussi à toutes vos activités quotidiennes. En fait, avec une attention puissante, vos activités quotidiennes elles-mêmes deviennent véritablement une forme de méditation. La concentration juste. Afin de développer une vision profonde ou pénétration de la nature de la réalité, l'objet de l'attention de votre esprit doit devenir net et exempt de toute distraction ou de monotonie. En pratiquant la concentration juste, vous serez finalement capable de placer la totalité de votre attention sur n'importe quel objet de votre choix et de l'y garder sans vaciller. L'aptitude à focaliser votre attention de cette manière constitue l'outil qui vous permet de pénétrer la vraie nature des choses et cette vision profonde change la vie. Sans la concentration juste, tout ce que vous comprendrez, peu importe ce dont il s'agira, sera condamné à rester superficiel et sans effet. Voici en résumé toutes les catégories ou divisions du sentier spirituel. Nous expliquons au chapitre 4, 5 et 11 à 14 comment le Bouddha et les maîtres bouddhistes ultérieurs les ont développés et façonnés pour former les différentes traditions bouddhiques qui sont apparues au cours des dernières 2500 années.
La différence entre l'attachement et le désir. Nombreux sont ceux qui croient de façon erronée que le bouddhisme veut la peau du désir. Si c'était le cas, il ne resterait plus aucun bouddhiste. Le problème, selon le Bouddha, n'est pas vos préférences et vos souhaits, mais votre rapport à eux. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, allez-vous être en colère ou déprimé? Ou bien avez-vous déjà cultivé la résistance intérieure et le détachement qu'il faut avoir pour accepter la vie telle qu'elle se présente? Après tout, vous n'avez qu'un contrôle limité des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, plus vous vous attacherez à vouloir que les choses aillent de telle ou telle façon, plus inévitable sera votre souffrance. Le secret d'une vie heureuse, pensait le Bouddha, consiste à vouloir ce que l'on a et à ne pas vouloir ce que l'on n'a pas. Une forme simple peut-être, mais l'une de celles dont la maîtrise exige sans doute une vie entière de pratique spirituelle.